être fidèle à notre parole, tenir nos promesses et engagements. Au début des années 1990, une organisation appelée les Promise Keepers a été fondée. Dans des stades bondés partout aux États-Unis, des hommes de nombreuses églises différentes se rassemblaient pour s'engager à tenir leurs promesses envers Dieu, leurs épouses, leurs familles, leurs églises, d'autres croyants et des non-croyants. J'ai eu l'occasion d'assister à l'un de ces événements avec 50 000 hommes. Les hommes y font 7 promesses. Honorer Jésus-Christ par l'adoration, la prière et l'obéissance à la parole de Dieu. Poursuivre des relations vitales. Cultiver des liens profonds avec d'autres hommes pour se soutenir mutuellement. Pratiquer la pureté. S'engager à une pureté spirituelle, morale, éthique et sexuelle. Construire des mariages et des familles solides, fondées sur l'amour, la protection et les valeurs bibliques. Soutenir l'Église. Servir et soutenir la direction de l'Église locale et sa mission. Dépasser les barrières. Manifester l'unité à travers les différences raciales, confessionnelles et culturelles. Influencer le monde. Obéir au grand commandement et à la grande commission. Aimer Dieu le prochain. Faire des disciples. Dans le monde d'aujourd'hui, il est difficile de trouver des personnes qui tiennent leurs promesses. Les conjoints se font des promesses, c'est-à-dire les vœux de mariage, puis les brisent. Les entreprises font des promesses à d'autres entreprises ou à des consommateurs, contrats légaux, puis ne les respectent pas. Nous nous faisons des promesses les uns aux autres, puis nous nous dédisons. Nous faisons même des promesses à Dieu, comme « Je fais de toi le Seigneur de ma vie ». Puis nous rompons cet engagement en n'obéissant pas à Dieu et en vivant comme nous le voulons. La Bible dit-elle quelque chose au sujet de faire des promesses et de tenir parole? Jetons d'abord un coup d'œil à Dieu. Dieu tient ses promesses. Dieu n'a jamais fait une promesse qu'il n'ait tenue. Nombre 23:19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Dieu fait toujours ce qu'il dit qu'il fera. Parfois, il dit qu'il fera quelque chose sans aucune condition. D'autres fois, il pose des conditions et nous donne la responsabilité de faire quelque chose en premier. Si Dieu a dit qu'il ferait quelque chose, nous pouvons en être sûrs à 100%. Il le fera. Amen. Deutéronome 7:9. Sache donc que l'Éternel, ton Dieu, est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. Ici, il est dit qu'il garde son alliance. Une alliance est un accord ou une promesse. Il y a deux parties ou plus, et chacune s'accorde à faire quelque chose. C'est un contrat légal, et il peut contenir des conditions. Nous pouvons avoir l'assurance que si nous faisons ce que Dieu nous demande, Dieu fera sa part. Par exemple, 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si nous faisons notre part, confesser nos péchés, reconnaître que ce que nous avons fait était mal, et nous repentir, on ne peut pas confesser bibliquement sans se repentir, se détourner du péché. Alors Dieu fera sa part. Il nous pardonnera et nous purifiera. N'est-ce pas merveilleux? Dieu dit, Psaume 89, 34, « Je ne violerai pas mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Dieu ne modifie pas et n'ajoute pas de conditions au milieu de l'alliance. Tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fera. Josué 21, 45. Pas un seul mot de toutes les bonnes promesses que l'Éternel avait faites à la maison d'Israël n'a failli. Tout s'est accompli. Dieu n'accomplit pas seulement une partie de sa parole. Il n'honore pas seulement une partie de son alliance. Il ne tient pas la plupart de ses promesses, mais toutes. Nous devons tenir nos promesses. Maintenant que nous savons que Dieu tient ses promesses, et nous, comment nous en sortons-nous pour tenir notre parole, honorer nos engagements et accomplir nos promesses? Saviez-vous que Dieu s'attend à ce que vous soyez comme lui? Nombre 32. Si un homme fait un vœu à l'Éternel, ou fait un serment pour se lier par une promesse, il ne violera pas sa parole. Il agira selon tout ce qui sera sorti de sa bouche. As-tu pris l'engagement de faire de Jésus le Seigneur de ta vie? As-tu dit à Dieu, « Je te servirai de toute ma vie » Où en es-tu avec cela? As-tu oublié ton engagement, ton vœu, ta promesse? As-tu décidé, « Eh bien, je pense que je sais ce qui est le mieux pour moi. Je vais faire mes propres plans et prendre mes décisions moi-même. Dieu, tu peux me faire part de tes pensées, mais je prendrai la décision finale, que je le fasse ou non. » Peut-être ne dirions-nous pas cela à voix haute ou consciemment à Dieu, mais bien souvent, nous commençons à vivre de cette manière. Ecclésiaste 5, 4 à 6. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il ne prend pas plaisir aux insensés. Accomplis ce que tu as promis par vœu. Il vaut mieux pour toi de ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Que ta bouche ne te fasse pas pécher, et ne dis pas devant le messager, « C'était une erreur ». Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'œuvre de tes mains? Ce verset s'inscrit dans le contexte d'un vœu fait à Dieu concernant une offrande. Mais il y a beaucoup à en apprendre. Il met l'accent sur l'intégrité et la gravité dans l'adoration. Il met en garde contre les promesses irréfléchies, disant de ne pas tarder à honorer ce qu'on a promis, car Dieu ne prend aucun plaisir aux insensés qui font des engagements vains. Il affirme qu'il vaut mieux ne pas faire de vœux que d'en faire un, et de ne pas l'accomplir. Mettons en garde contre le fait de chercher des excuses pour une promesse rompue, ce qui peut attirer la colère de Dieu. Nous voyons ici plusieurs choses. Ne tardez pas à tenir vos vœux. Quand vous faites une promesse, un vœu à Dieu, accomplissez-la rapidement. Dieu n'aime pas les insensés. Dieu ne prend pas plaisir en ceux qui prennent des engagements, puis les rompent. De tels actes révèlent de la folie et un manque de respect. Mieux vaut ne pas faire de vœux. Si tu ne peux pas ou ne veux pas tenir ta parole, il est plus sage de ne pas faire de vœux du tout que de le rompre. Ne te trouve pas des excuses. N'essaie pas de te dégager de ton vœu en disant aux autres ou à Dieu que c'était une erreur. Cela montre un manque de respect et peut entraîner le jugement divin. Conséquence des vœux rompus. Dieu pourrait se fâcher contre tes paroles et détruire les bonnes choses, les œuvres de tes mains, qu'il t'avait accordées. Waouh, c'est vraiment sérieux. Qu'en est-il de nos promesses faites aux autres, à notre conjoint, à nos enfants, à nos enseignants, à nos employeurs, à nos amis? Matthieu 5, 33 à 37. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as juré. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit simplement oui ou non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Pour donner un peu de contexte, les pharisiens avaient mis en place un système de serments rempli de failles, appelé serment évasif. C'était une méthode légaliste complexe, conçue pour donner l'apparence d'une promesse obligatoire, tout en permettant techniquement de s'en dégager. Ils avaient deux systèmes de serments, les serments contraignants. Si une personne jurait directement par le nom de Dieu, le tétragramme, le serment était considéré comme absolument contraignant, et le rompre était une violation du troisième commandement. serment non contraignant, pour éviter les grands risques liés à l'usage du nom de Dieu, les pharisiens ont développé des serments moindres utilisant des objets sacrés. Ils enseignaient que les serments prononcés sur des choses associées à Dieu, mais non sur Dieu lui-même, n'étaient pas strictement contraignants. Ce verset s'applique à nos vœux envers Dieu, mais je pense que nous pouvons aller plus loin et l'appliquer aussi à nos promesses faites aux autres, à notre conjoint, à nos enfants, à nos enseignants, à nos employeurs, à nos amis. Les chrétiens devraient vivre avec une telle intégrité que leur simple « oui » signifie toujours « oui » et leur « non » signifie toujours « non ». Notre parole devrait refléter la vérité, sans tromperie ni manipulation. Jésus appelle à une honnêteté radicale, montrant que tout ce qui va au-delà d'un simple « oui » ou « non » vient du mal. Notre vie devrait démontrer une honnêteté radicale et un engagement envers nos paroles. Ta parole devrait te lier. Tu ne devrais pas avoir besoin de prêter serment, car ta réputation de véracité est éprouvée au fil du temps. Nos paroles devraient être simples et claires. Le message central est simplicité et sincérité. Que votre parole soit simplement oui ou non, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Examinons un autre aspect dans les psaumes. Psaume 15, 1 à 5. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité dans son cœur. 3. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son prochain, et il ne jette point l'opprobre sur son semblable. 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. 5. Il ne prête pas son argent à intérêt, et il n'accepte pas de présent contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. La question ici est essentiellement, qui peut demeurer avec Dieu? Le psalmiste expose ensuite certaines conditions. Celui qui marche dans l'intégrité, dit la vérité, ne calomnie pas, ne fait pas de mal au prochain, honore Dieu, ceux qui le craignent et ne profitent pas financièrement des autres. Il y a aussi ici quelque chose de surprenant. La fin du verset 4, dans la version Semeur, dit « Celui qui tient ses engagements, même à son préjudice, sans se rétracter. Est-ce que tu tiens ta promesse, même si cela te coûte, même si cela t'occasionne une perte? Exemple, j'ai fait une estimation erronée. Aujourd'hui, nous signons des contrats. Autrefois, la parole d'une personne et une poignée de main valaient de l'or. Aujourd'hui, nous nous attendons à ce que les gens ne tiennent pas leurs promesses, qu'ils mentent ou nous trompent, et nous lisons attentivement toutes les petites lignes d'un contrat pour y déceler le piège. Un homme de Dieu n'a pas de piège caché. Il y avait autrefois un dicton, aussi sûr que l'or. Cela signifiait que quelque chose valait autant que de l'or. Ta parole vaut-elle autant que l'or? Est-elle tout aussi précieuse, ou ne vaut-elle rien? Les gens peuvent-ils être absolument certains que tu feras ce que tu dis? Je serai là à 17h. Tu y es, à moins qu'un accident ne soit survenu en chemin. Quelque chose hors de ton contrôle. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Si tu ne tiens pas tes promesses dans les petites choses, tu ne les tiendras pas non plus dans les grandes. Comment es-tu avec le respect de tes promesses? Payer ses dettes et ses prêts. Si tu as emprunté de l'argent à quelqu'un, et que tu as dit que tu rembourserais un certain montant chaque semaine, le fais-tu? Peut-être que cette personne compte vraiment sur cet argent. Est-ce que ce que tu fais est juste? Être à l'heure. Tu prends rendez-vous avec quelqu'un à 14h, et tu arrives à 14h30. Ou peut-être pas du tout. Tu fais perdre du temps à quelqu'un parce qu'il t'attend, alors qu'il pourrait faire autre chose. tenir tes engagements. Tu t'es inscrit pour servir dans un ministère à l'Église à une certaine date, ou tu as accepté d'accomplir une tâche pour un ministère à une certaine date, et tu arrives en retard. Tu ne viens pas, ou tu ne fais pas la tâche. Est-ce juste pour les autres membres de l'équipe qui doivent changer leur plan et prendre en charge ce que tu avais dit que tu ferais? Honorer tes vœux de mariage. Te souviens-tu de tout ce que tu as promis à ton conjoint? Tenir ses promesses à ses enfants. As-tu promis d'aller quelque part ou de faire quelque chose avec ton enfant un certain jour, puis tu ne l'as pas fait, et tu dis que tu le feras une autre fois? Ils apprennent de toi que les promesses peuvent être brisées. Gardez Dieu en premier. Parfois, nous nous éloignons de notre engagement à faire de Jésus notre Sauveur et Seigneur. Nous lui avons dit qu'il était le premier dans notre vie. Mais l'est-il vraiment? Quand tu ne tiens pas ta parole et tes promesses, les gens apprennent qu'ils ne peuvent pas te faire confiance. Et s'ils ne peuvent pas te faire confiance, il est difficile de bâtir une relation. Nous devons être des personnes de parole, tenir nos promesses, être fiables et laisser nos actions être en accord avec nos paroles. Voici certaines choses que Dieu attend de notre parole. Notre parole doit être digne de confiance à 100%, tout comme la sienne. Notre parole doit être plus solide qu'un contrat rédigé par des avocats et appliqué par les tribunaux. Elle devrait être associée à la confiance, la fiabilité, la responsabilité, un sens de l'honneur et du devoir. Il y a des personnes à qui je ne fais pas confiance. Elles peuvent être gentilles, mais elles ne font pas ce qu'elles disent ou promettent. Elles ne tiennent pas leurs promesses. D'accord, le pardon est accordé, mais la confiance doit être méritée. Deuxièmement, notre parole devrait être une source de foi, comme la parole de Dieu est une source de foi. Nous sommes appelés à être des exemples pour le monde. Mais quel type d'exemple es-tu? Un bon ou un mauvais exemple? Les gens devraient pouvoir nous faire confiance pour payer nos factures à temps, venir au rendez-vous à l'heure, et ne pas changer notre parole lorsque cela devient inconfortable pour nous. Lorsque nous ne tenons pas notre parole promesse, les autres perdent confiance en nous. Nous détruisons des amitiés en ne tenant pas notre parole. Nous détruisons notre bonne réputation, notre témoignage de Christ. Oh, si les chrétiens, je ne veux rien avoir à faire avec cela. Nous nous privons de la bénédiction de Dieu. Pour moi, ne pas être un homme de parole est un prix trop élevé à payer, un risque trop grand à courir. Je veux être une personne qui demeure dans le sanctuaire de Dieu et vit sur sa montagne sainte. Ministère, repens-toi si tu n'as pas tenu ta parole, si tu as brisé tes promesses. Engage-toi à être une personne de parole, à tenir tes promesses et à être quelqu'un sur qui les autres peuvent compter.